France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's on in the house.
Halim, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde ce soir, c'est un jour dans la peau d'une enquêtrice de l'ONU.
There is little doubt in my mind that the killing was premeditated. They were planning to execute Mr. Khashoggi at least 24 hours before the actual execution.
Bonsoir Agnès Calamard.
Bonsoir.
C'est vous qu'on entend là, bien sûr. C'est vous au sujet de la mort de Jamal Khashoggi, tué dans le consulat saoudien de Turquie, qui occupe tout le début de votre livre et qui a été évidemment l'une de vos grosses enquêtes. On y viendra. Vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International pendant 5 ans. Vous avez été rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Ça veut dire que votre travail était précisément d'enquêter sur les meurtres et autres assassinats qui sont autant de crimes d'État. On croise Jamal Khashoggi, on croise Alexei Navalny, mais aussi d'autres. On reviendra sur ces affaires, vous les racontez dans un livre qui s'appelle Une enquêtrice à l'ONU, que vous avez écrit avec Alexandre Duic, et c'est publié chez Flammarion. On va s'y plonger, mais quand même, avant, Agnès Calamard, ça fait plusieurs mois que nous vivons dans un monde où la guerre est ultra présente. Il y a la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine, il y a celle qui est à Gaza, il y a les conséquences que nous savons, on sait aussi comment elle a commencé, il y a les régimes forts, oui, les régimes autoritaires, les États-Unis aussi qui entendent régler la marche du monde par intimidation. Est-ce que le droit international est devenu le cadet des soucis des dirigeants qui sont aujourd'hui à la tête des grands pays ou pas?
En effet, le droit international est à genoux. Les organisations multilatérales ne jouent plus le rôle qu'on leur avait attribué. Les valeurs que l'on avait mises en place, que l'on avait imaginées, espérées en 1948 et que l'on a construit par des actions répétées au cours des 80 dernières années, tout ça est extrêmement mis à mal. On est vraiment au bord d'un abîme.
Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-il admis désormais que le droit international au fond est quelque chose qui empêche de gouverner en rond?
C'est une tentative de changer d'air, une tentative RERE. C'est une tentative de la part de grandes puissances de remodeler le système international pour qu'il serve leurs intérêts, parce qu'elles ont décidé que celui que nous avions à l'heure actuelle ne servait pas assez leurs intérêts.
Mais ce que ça veut dire, c'est que nous aussi, les citoyens des pays démocratiques, on y est moins attachés. Ça dit ça aussi. Ces gens, pour la plupart, que j'ai cités en tout cas, ont été élus.
Écoutez, on a fait la courte échelle à tout ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas arrivé le 20 janvier 2025. Trump surfe sur une vague d'autoritarisme, de dérives que nous avons enregistrées depuis des années. Des dérives que l'on retrouve dans les vieilles démocraties occidentales.
Et comme la nôtre.
Comme la nôtre, exactement.
Si on jouait, c'est pas un jeu à lister, on observe de très près évidemment ce qui se passe à Gaza, on observe de très près ce que Poutine fait en Ukraine.
Oui.
Mais on observe de très près aussi que les États-Unis sont en train d'envoyer leurs migrants sans procès, sans avocat,
exactement,
sans rien dans des pays tiers. On est en train d'observer qu'on est capable de faire, nous en France, des propositions qui disent qu'on peut envoyer les OQTF effectivement à Saint-Pierre-Miquelon. Donc pouvoir le dire,
c'est ça.
Ça veut dire qu'au fond, c'est entendable. Mais c'est peut-être ça qui est encore plus grave en fait, c'est que ça devienne entendable.
C'est exactement ça le plus grave. C'est-à-dire que dans le passé, on violait les droits. On ne va pas prétendre que le passé était parfait. Il y avait des violations quotidiennes des droits, mais en général, ceux qui violaient cachaient. Ceux qui violaient disaient non, niaient. On est rentré maintenant dans une ère où ceux qui violent le clament avec presque fierté. Ils déterminent, ils décident et ils le disent avec grande vigueur. Ces principes ne s'appliquent pas à nous.
À quel moment vous devenez obsolète, du coup, à Amnesty, ou quand on est enquêtrice de l'ONU, c'est triste à dire comme ça, mais à quel moment devenez-vous obsolète?
On ne le devient pas, parce que là, nous parlons de puissance gouvernementale, de personnes élues ou non élues. Mais n'oublions pas que les sociétés, elles sont multiples. Nous, à Amnesty International, nous observons que depuis des années, le nombre d'engagements des citoyens augmente, les manifestations augmentent, les actes de désobéissance civile augmentent, la répression augmente. La criminalisation de choses qui ne devraient pas être criminalisées augmente. Mais les gens ne se laissent pas faire. Les gens résistent.
Alors les gens résistent et en même temps, il faut être assez accroché, Agnès Calamard, parce que ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est qu'à de multiples reprises, c'est totalement le cas pour Ramal Khashoggi, on va le répéter, qui était journaliste et qui a été assassiné par les Saoudiens à l'intérieur du consulat en Turquie. C'est vous qui vous... Alors, c'était votre boulot puisque vous étiez rapporteuse, mais enfin, c'est vous qui vous emparez de l'enquête, c'est vous qui décidez d'y aller, c'est vous qui décidez d'y rester. Vous le faites même en grosse partie à vos frais. Ça veut dire que personne ne vous aide à faire ça, même pas l'ONU que vous représentez. Ça veut dire que personne n'a envie que vous alliez chercher, en fait.
Non, personne n'avait envie que je fasse cette enquête, ça c'est très clair, à part la fiancée de Jamal, Atiche, à part les amis de Jamal, journalistes, à part, je dirais même, la communauté médiatique, en fin de compte, en règle générale. Mais les États ne le voulaient absolument pas, quels qu'ils soient, d'ailleurs.
Les Nations Unies non plus.
Et les Nations Unies non plus. Les Nations Unies sont timorées, c'est une grosse institution bureaucratique, elle n'aime pas prendre de risques. Elle n'aime pas prendre de risques. Et moi, je prenais un risque important, parce qu'il s'agissait de l'Arabie Saoudite. Donc, les personnes qui étaient proches de moi et qui travaillaient pour les Nations Unies ont cherché à me faire changer d'avis, je dirais.
Alors, vous donnez, je laisse les lecteurs le découvrir, mais force détail de choses que l'on sait, puisqu'on sait qu'il a été assassiné, mais les conditions, les enregistrements que vous donnez à lire sont pénibles, enfin, sont vraiment terribles. Ça nous redonne une idée de l'horreur qu'a été ce crime-là. Lorsque vous enquêtez, c'est dans le même ordre d'idées, sur Guylaine Dupont et Claude Verlon, qui sont les deux journalistes d'RFI qui ont été tués au Mali. Pareil, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas été aidé, c'est le moins qu'on puisse dire, dans votre travail à l'ONU, mais aussi par les Français.
Par les Français en particulier, malheureusement. De nouveau, j'ai bénéficié énormément du soutien de la famille de Ghislaine et de Claude et de leurs amis. Je tiens à rendre hommage au travail qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. Mais en ce qui concerne les Nations Unies qui étaient présentes au Mali au moment du kidnapping et de l'assassinat de Ghislaine et Claude, et bien sûr de la France, des militaires français, ces deux institutions n'ont absolument pas collaboré à mon enquête. Des deux côtés, il y a eu une sorte
de
secret défense qui s'est mis en place.
La France, écrivez-vous, a perdu de son influence sur ces questions des droits humains. Elle n'est plus du tout le pays vers lequel on se tourne pour faire avancer certains dossiers, pour lancer des actions communes, pour demander un soutien. Notre politique étrangère est trop souvent dénuée d'humanité.
Elle est dénuée d'humanité et elle a perdu toute crédibilité en raison des doubles standards qui l'animent bien trop souvent. Bon, je reconnais qu'à certains moments, il y a une prise de conscience, il y a une action. Par exemple, celle de président Macron près de Gaza hier, c'est un moment important. J'espère qu'il va pouvoir avoir un impact. Mais ces moments-là sont très, très rares. Donc la France a vraiment perdu de son image, de l'impact qu'elle pouvait avoir à travers le monde au nom de la raison d'État, au nom d'intérêts géostratégiques qui prédominent contre les intérêts liés aux valeurs qui ont pourtant fondé la nation française.
Vous écrivez cette phrase qui m'a frappée dans votre livre, la justice ne prend pas toujours la forme d'une décision prononcée par un tribunal.
Oui.
Et au fond, c'est une manière de se consoler presque, non? On se dit que c'est ça, au fond, le rôle du rapporteur, vos rapports, ils existent.
Oui.
Alors peut-être qu'ils sont la bonne cause, la bonne conscience de l'ONU d'une certaine façon, mais au moins ce qu'on sait, c'est quelque chose qui est noir sur blanc. Peut-être qu'un jour, on saura les retrouver.
Voilà, peut-être qu'un jour, une justice sera rendue de façon beaucoup plus formelle par un tribunal, mais en attendant, au moins, la parole a été entendue, les gens ont été entendus, les victimes ont été entendues, et il y a un rapport qui a ce symbole, le symbole des Nations Unies, donc ça le porte.
Mais en même temps, c'est intéressant, parce que vous avez suggéré, c'était après Khashoggi, si je ne m'abuse, ou peut-être après, d'ailleurs, Guylaine Dupont ou Claude Verlon, vous avez suggéré un instrument international pour pouvoir mener des enquêtes criminelles sur les assassinats ciblés de journalistes, parce que dans ces endroits-là, les cibles sont les journalistes, et échec, il n'existe pas.
Pour l'instant, ça n'avance pas. C'est toujours débattu, donc je ne vais pas dire que c'est complètement oublié. Il y a quand même une prise de conscience du fait que il nous manque certains instruments pour mener des actions et des enquêtes là où les États refusent de le faire.
Bah, et on se souvient aussi, vous le rappelez, que Mohamed Ben Salman, donc, qui dirige l'Arabie Saoudite, était persona non grata, et puis le premier à avoir brisé ses propres mots, c'est Joe Biden. Alors oui, non, ça a été Emmanuel Macron d'abord, Emmanuel vous avez raison, et absolument, et puis ça a été ensuite Joe Biden.
Exactement, et en ce qui concerne Joe Biden, ce qui l'a amené à réhabiliter Mohamed Ben Salman, c'est l'agression russe en Ukraine, qui a provoqué une grande crise au niveau énergétique et qui a amené les pays occidentaux à se tourner vers l'Arabie Saoudite.
Puisque vous êtes en train de parler de Russie, un petit mot quand même sur Navalny qui occupe une place importante dans votre livre. Vous avez écrit, là encore, la responsabilité de la Russie dans son empoisonnement avant qu'il ne rentre. Ce que j'ai trouvé touchant, c'est que vous n'avez pas cherché à le dissuader de rentrer en Russie. Vous saviez qu'il allait rentrer, vous en avez discuté avec vos équipes et vous vous êtes dit, il faut le laisser rentrer.
Oui, je regrette quand même maintenant. Je regrette.
Vous pensez qu'il aurait fallu le convaincre?
Je pense que j'aurais dû insister plus. J'avais au fond de moi, au fond de mon cœur, je m'étais dit, s'ils étaient prêts à faire ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils vont vraiment s'arrêter là? J'avais ça au fond du cœur, mais vous savez, Alexei, il était animé par une foi et un amour pour son pays qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Et je pense qu'il avait aussi un sens d'immortalité après ce qu'il lui était arrivé. Il avait survécu, il était encore plus fort que jamais et il est rentré et 2 ans plus tard, il est mort.
Après, Agnès Calamard, il y a des choses que vous soulevez dans votre livre et qui sont des vrais sujets de réflexion intéressants sur ce que doivent être les droits humains. D'ailleurs, c'est grâce à vous, en partie, qu'on parle de droits humains et plus de droits de l'homme, pas partout, et notamment pas en France.
Non, exactement.
J'ai aussi beaucoup retenu ça dans ce que vous écrivez. Il y a aussi, après, ce qui vous est reproché et qu'on a parfois plus de mal à comprendre, notamment le cas de Qassem Soleimani, qui était un très haut dignitaire militaire iranien, qui a été tué par une frappe américaine, un assassinat ciblé lorsqu'il était en Irak. C'était très très loin d'être un enfant de cœur. Vous avez été attaqué par les États-Unis et par Israël qui vous ont dit à quoi ça sert de défendre le cas d'un gars comme ça qui, de toute façon, est un personnage épouvantable et qui peut-être allait faire des actions dans le futur. Comment on répond à ça?
Écoutez, on répond sur la base du droit international. Le général Soleimani était loin d'être un enfant de cœur. Il avait organisé des attaques. C'était quelqu'un qui était probablement un grand criminel et un grand criminel de guerre. Mais l'attaque qu'il a tuée était une violation du droit international. C'était non seulement une violation du droit international, c'était un acte qui était possiblement un acte de guerre. Donc, cette attaque contre le général Soleimani, qui était un représentant officiel d'un État dans un autre pays, c'était un acte qui aurait pu amener une extrême insécurité dans la région. Et n'oublions pas qu'il y a eu quand même, après ça, des centaines de morts en lien avec cette attaque.
Notamment l'avion
l'avion ukrainien qui a été abattu par les Iraniens en pensant qu'ils allaient abattre un missile américain.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point vous marchez parfois sur une ligne de crête quand on s'occupe de droits humains comme vous. L'autre sujet de controverse, c'est le choix des mots qui est vraiment intéressant, qui vous ramène aussi à votre casquette d'Amnesty. Le choix des mots, c'est Alexei Navalny qui est ou pas prisonnier d'opinion, le choix des mots c'est génocide ou pas dès lors qu'on parle de Gaza, le choix des mots c'est le Hamas qui n'est pas qualifié de mouvement terroriste, on vous l'a beaucoup reproché, mais simplement en droit effectivement ça n'existe pas. Et en vous lisant je me suis dit mais en fait c'est qu'il en manque des mots aujourd'hui, nouvelle forme d'attaque, nouvelle forme de guerre, nouvelle forme de puissance, donc il vous manque des instruments et il vous manque aussi des mots pour le droit international, non?
Il manque surtout la volonté politique. Bon, au-delà des mots, au-delà des instruments, la chose qui manque le plus, c'est la volonté politique de mettre en œuvre ce que nous avons déjà. Les mots et les concepts que nous avons, les valeurs que nous avons, il y a un manque total de volonté politique à mettre en œuvre la protection des droits, la protection des Ukrainiens, la protection des Palestiniens. C'est ça qui nous manque avant tout, je dirais.
Et aussi, peut-être, ce sera la conclusion à la fois des instruments et puis peut-être aussi, je ne sais pas, quelque chose qui vous mette plus en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression parfois que l'intimidation des dirigeants aujourd'hui va plus vite que vous. Vous écrivez « L'Ukraine, Gaza et maintenant Donald Trump accélère la transformation historique de notre monde et l'arrivée d'une nouvelle ère caractérisée par l'annihilation du droit international. » Et vous dites « Nous devons reconnaître que les méthodes et interventions des dernières décennies seront probablement insuffisantes face à ces tendances. »
En effet, il faut qu'on réinvente la résistance. Jusqu'à présent, on a fait beaucoup d'actions. Là, nous rentrons dans un scénario qui est extrêmement dangereux. Il faut garder espoir, il faut se battre et il faut réimaginer notre résistance parce que les gens, les pouvoirs auxquels nous devons combattre sont prêts à tout. Donc résistons, indignons-nous et continuons le combat pour la protection des droits.
Agnès Callamard, vous êtes secrétaire générale d'Amnesty International et votre livre signé avec Alexandre Duic s'appelle « Une enquêtrice à l'ONU » et c'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde avec quatre Français en Corée du Sud qui apprennent les secrets de fabrication de la K-pop. Pour aller jusqu'à 19h, il y a Christelle Rebière sous les radars.
Et je vous parlerai d'un énorme parc d'attractions à venir près de Londres. Mickey a du souci à se faire.
Le monde à 18h49. Franck Madvon, bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Trump a l'air sûr de lui sur les droits de douane, mais sa stratégie est soumise à beaucoup d'aléas et il n'y a pas d'alternative.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir. Sujet dont le cinéma iranien s'est peu emparé jusqu'ici. L'intégration est quasi impossible des réfugiés afghans venus s'inventer une nouvelle vie au pays de leurs frères. C'est le nom du film dont on parle tout à l'heure.
Allez, à tout de suite. N'allez pas trop loin, les amis. Le tour de la planète continue avec un classique de la playlist d'Inter, choisi par Djoubaka, Green Tea Peng, One Foot sur Inter.
One foot front and back again. Don't tell me it'll be like this until the end. I'm learning to surf, my friend, these treacherous oceans. I'm fucking exhausted, messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Foot front and back again. That's just a comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me?
Le reportage d'un jour dans le monde est en Corée du Sud ce soir et il va vous livrer les secrets du succès de la K-pop. Les groupes de K-pop, je ne vous apprends rien, ont un succès immense. Ils remplissent les stades, ils font se pâmer les jeunes femmes partout dans le monde. Mais ils sont surtout, et peut-être surtout ça d'ailleurs, le produit d'une industrie musicale bien différente de nos standards. Quatre artistes français s'y sont plongés, un partenariat entre le Centre National de la Musique et les labels de pop coréenne. Un voyage, vous allez vite le comprendre, tout en rythme et aussi en choc culturel. Le reste, c'est Celio Fioretti qui raconte.
Dans le studio du label de K-pop Top Media à Séoul, ces quatre Français se frottent à l'industrie musicale coréenne. En plus des rythmiques qui font désormais danser le monde entier, ces jeunes artistes découvrent la méthode coréenne pour faire un tube qui est assez déstabilisante pour Poppy et Robin.
Ouais, bah c'est une autre façon de faire. En tout cas, la K-pop, après, c'est un style de musique qui est vraiment très particulier, où en fait, tout le monde a sa place. Il faut rester à sa place. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... les interprètes qui restent des interprètes, les auteurs qui restent des auteurs, les top-liners des top-liners.
Celui ou celle qui écrit la mélodie vocale.
Et les prods des prods. Donc, alors qu'en France, on a souvent plusieurs casquettes. Et du coup, il y a certains des top-liners comme moi qui sont venus avec moi dans ce programme, qui sont aussi producteurs et qui ont pu de temps en temps être un peu frustrés de ne pas pouvoir produire.
C'est très très codifié en fait, tu vois. Donc... C'est un exercice, c'est assez compliqué, parce que du coup il y a moins cette notion de vibe et de on kiffe dans le studio, on s'enjaille tous autour d'une instru, c'est plus chacun va essayer d'amener sa science pour que le morceau soit calibré parfaitement au pourcentage près. Et c'est une manière différente de travailler, c'est ni moins bien ni mieux, mais c'est différent.
Malgré quelques accros, incompréhensions et la barrière de la langue, le groupe mené par Jean-Noël parvient à avancer sur ce projet musical. Ça fait un peu plus de 2 heures que vous êtes dans le studio. Comment ça se passe jusque-là ?
Ça se passe très bien. C'est collégial, on va dire. Chacun essaie de mettre ses idées et voilà, de coller au maximum au projet. Donc voilà, c'est cool de voir des méthodes différentes. On n'est pas vraiment habitué en France à bosser de cette manière. Donc c'est enrichissant, quoi.
On est beaucoup là. En fait, on est 5 top liners et c'est très rare, ça.
Voilà.
Enfin, en tout cas, en France, c'est rare. Moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie. 5, c'est beaucoup, hein.
Ça, ouais, c'est beaucoup. Ouais.
Donc on essaye de composer avec toutes les différentes. Mais tout le monde a des très bonnes idées des deux côtés, donc ça fait plaisir.
Bah en fait au niveau des mélodies, c'est comme assez jeune. C'est comme un groupe de filles qui ont entre 16 et 17 ans, donc on peut pas faire un truc trop mature, clairement. Donc là on a une idée de concept de texte qui match bien avec. On va proposer ça, mais non, pour l'instant on essaie surtout de clarifier la mélodie du titre. Une fois qu'on sera sûr de ça, on écrira le texte. Et on fait toujours faire par étapes, en gros, quoi.
Du côté de Daniel Kim, producteur du label, on apprécie la fraîcheur de la French Touch.
Les émotions et les mélodies qui les écrivent sont assez différentes des autres pays. Ils ont leurs propres couleurs, ce qui est assez rafraîchissant pour moi. J'apprécie bien.
Quelques heures plus tard, la troupe ressort du studio avec une maquette de K-pop où les chanteuses du label n'auront plus qu'à poser leur voix et trouver une chorégraphie. Une expérience enrichissante pour Poppy qui compte s'inspirer de la K-pop dans son travail.
Moi j'étais très intimidée en arrivant ici et je suis contente du résultat. Je suis contente d'avoir apporté des choses, mais surtout énormément appris. J'espère que ça va débrider un peu ma musique. Je pense que ça m'a appris à un peu plus me prendre la tête sur comment mettre des petits twists.
Habitué aux collaborations avec les artistes américains, le monde de la K-pop pourrait bientôt s'ouvrir aussi aux producteurs français.
C'est Lio Fioretti pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars. C'est Christelle Robillard. C'est à Bedford que nous allons, c'est à 80 km au nord de Londres.
C'est là que le groupe Universal va implanter un gigantesque parc d'attractions, son premier en Europe. De quoi retrouver les plus grands succès de la franchise du mythique studio hollywoodien, comme les Mignons que vous venez d'entendre, Jurassic World ou encore Fast and Furious. L'accord vient d'être conclu avec le Premier ministre Keir Starmer, après des décennies de négociations. Ce dernier se félicite. Ce parc devrait créer 28 000 emplois dans les secteurs de la construction, de la création, du tourisme. Il sera bâti sur un terrain de plus de 200 hectares qui abritait autrefois une briqueterie. Le site est déjà particulièrement bien desservi par les transports en commun. 1 heure de train depuis la gare londonienne de Saint-Pancras. Universal promet des récits immersifs, des manèges, des attractions, un hôtel de 500 chambres. Objectif, 8,5 millions de visiteurs par an. En comparaison, Disneyland Paris est à plus de 10 millions.
et nous sommes en Serbie, avec un mouvement de foule très étrange.
C'était le 15 mars dernier, des centaines de milliers de personnes manifestaient à Belgrade pour dénoncer la corruption des élus lorsque la foule s'est soudain fendue en deux, fuyant à toutes jambes de part et d'autre, un mouvement de panique causé par un bruit inconnu. Aujourd'hui, une pétition rassemblant 600 000 signatures a été remise à l'ONU pour demander une enquête internationale. Les manifestants soupçonnent la police d'avoir utilisé un canon à son, une arme de guerre acoustique absolument interdite. Certains témoins évoquent le bruit d'un avion sur le point de s'écraser, d'autres une sensation de désorientation, voire de brûlure. Les autorités serbes ont nié posséder une telle arme, le président a même parlé de mensonge, mais l'ancien vice-premier ministre Jovanovic, sur un plateau de télévision, ignorant qu'il était à l'antenne, a expliqué qu'une arme sonore avait bien été utilisée, pas pour blesser, mais pour faire fuir, comme une voiture, a-t-il dit, qui fonce sur vous.
On les laisse, les petits oiseaux. Nous sommes au Japon, où les cerisiers vont bientôt être en fleurs.
Et cette floraison, baptisée Sakura, attire des millions de touristes chaque année. Mais il faut préserver plus que jamais ces arbres qui vieillissent. Beaucoup ont entre 70 et 80 ans. Et c'est l'intelligence artificielle qui vient s'occuper d'eux. Les médecins des arbres, et oui, ça existe, ont entre les mains un nouvel outil, baptisé Sakura Alcamera, une application qui permet, à partir de photos prises de chaque arbre, d'évaluer sur une échelle de 1 à 5 leur état et leur âge. L'IA s'est entraînée grâce à 5000 images. Les photos du cerisier, son état, sa localisation sont ensuite collectées, accessibles gratuitement par les autorités locales. C'est d'autant plus important que remplacer un arbre coûterait, paraît-il, plus de 6000 euros. Ce temps du sakura ne dure, lui, qu'une semaine. Mais les cerisiers en fleurs symbolisent la fragilité de la vie dans la culture japonaise.
Ben voyez, j'en profite pour vous dire qu'au Japon, nous y serons demain, avant l'ouverture de l'exposition universelle. Christelle Robière, merci beaucoup. Vous aussi, vous serez là demain. Vous partez avec une reprise d'un classique des années 30 de Cole Porter, signé Jimmy Cullum, qui chante I get a kick out of you.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true? I get a kick out of you. Some get their kicks from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. That I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. That I get a kick out of you.
Jamie Cullum, I get a kick out of you sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Franck, les nouveaux droits de douane imposés par Washington sont entrés en vigueur, donc nouvelle journée agitée sur les marchés. Les États-Unis semblent ouverts à des négociations, mais ce soir, vous nous dites pourquoi l'absence d'un plan B
pose problème.
La stratégie de l'administration Trump sur les droits de douane s'affine au fil des jours. La Maison-Blanche annonce maintenant la couleur, place aux négociations. Alors ça a été dit de diverses manières ces dernières heures. Donald Trump a opté pour un langage fleuri. Il me lèche le cul, kissing my ass, en parlant des pays qui viennent demander un accord pour réduire les nouvelles taxes sur les importations que leur imposent les États-Unis. Le ministre des Finances, Scott Bessent, précise lui que ces droits de douane sont un plafond, sauf représailles des États visés. Ces droits ont donc vocation à baisser après des pourparlers. Venez négocier et ne vous inquiétez pas. Voilà en gros, et on y reviendra dans le journal à 19h, les deux principaux messages des dernières heures.
Et de fait, certains pays se montrent disposés à négocier.
D'après la Maison-Blanche, quelques 70 pays auraient approché en effet l'administration actuelle pour discuter des tarifs. Certains sont déjà cités en exemple. Ce sont les premiers à courir chez Trump pour réclamer un accord. Japon, Corée du Sud, voire Italie, dont la dirigeante Giorgia Meloni est attendue la semaine prochaine à Washington, sans qu'on sache vraiment si elle y va pour son pays ou pour l'UE. La Maison-Blanche serait disposée à signer des accords qui vont au-delà du commerce, défense, lutte contre la drogue, tout pourra être mis sur la table, selon des sources au sein de l'administration et citées par les médias américains.
Mais des pays pourraient ne pas vouloir négocier, Franck.
L'exemple le plus évident, surtout aujourd'hui, c'est la Chine qui réplique et porte ses droits de douane à 84%, une réponse aux 104% imposés par les États-Unis. Pékin promet de se battre jusqu'au bout dans cette guerre commerciale. D'autres pays refusent de céder au chantage de Trump. C'est le cas notamment du Brésil, qui est toutefois confronté à des barrières douanières plus faibles, seulement 10%. L'Union européenne adopte une autre stratégie. Ni genoux à terre, ni riposte violente. Des contre-mesures entrent en vigueur aujourd'hui. Elles répondent aux surtaxes sur l'acier et l'aluminium datant du mois dernier. Pour les représailles aux droits dits réciproques, il faudra attendre, les 27 discutent, mais la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a bien précisé que l'UE allait désormais se concentrer sur les 83% d'échanges commerciaux effectués avec d'autres pays que les États-Unis.
Donc la négociation des droits de douane pourrait échouer.
Mais Trump semble convaincu que tous les partenaires des États-Unis vont venir lui baiser la main et quémander un accord. Les marchés financiers vont alors s'apaiser, le déficit commercial va chuter. Les caisses américaines vont se renflouer et si certains ne s'inclinent pas comme la Chine, cela profitera à l'industrie aux États-Unis. Ce scénario idéal n'est pas exclu, mais Trump et ses proches conseillers n'ont que celui-là en tête. Or, plusieurs pays, on l'a dit, à commencer par la Chine, peuvent opter pour le bras de fer. Si les droits de douane sont maintenus à un niveau élevé, les risques sont connus, forte inflation, possible récession, incertitude sur la relance de l'industrie américaine, rupture avec les alliés traditionnels, notamment l'Europe. Pour Donald Trump, non seulement le plan A doit fonctionner, mais il doit vite obtenir des résultats.
Franck Madvon, merci beaucoup. Le mercredi, séance de ciné, c'est le cinéma en VO et Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter. And the Oscar goes to... Un jour dans le monde.
Même culture. Corinne, même langue, des souvenirs en commun, mais une intégration parfois bien difficile pour les millions d'Afghans qui sont installés aujourd'hui en Iran. Les cinéastes Alireza Ghassemi et Raha Amir Fazli ont décidé de leur consacrer un film, ça s'appelle Au pays de nos frères, sorti au cinéma la semaine dernière. Fiction réalisée à partir de nombreux témoignages de réfugiés et qui donne à voir une réalité qu'on connaît peu.
Ah oui, c'est surtout un sujet dont le cinéma iranien s'est peu emparé jusqu'ici et qui est loin d'être marginal, tout d'abord en termes de chiffres. On estime qu'il y a aujourd'hui en Iran au moins 5 millions de réfugiés afghans qui ont traversé la frontière, dont l'espoir de trouver au pays de leurs frères un travail, une situation politique plus stable et qui se retrouvent à la place exposés à un sentiment anti-afghan très fort, des conditions de vie de plus en plus précaires, accusés de tous les maux économiques, sociaux, ciblés par des campagnes très virulentes, racistes sur les réseaux sociaux, parfois même dans la presse. Il y a des pétitions, des reconduites à la frontière de plus en plus musclées depuis le retour des talibans au pouvoir dans le pays, qu'ont voulu dénoncer ici le cinéaste Alireza Ghassemi et sa co-réalisatrice avec un film poignant sur le quotidien de plus en plus précaire de ces populations.
Malheureusement, le gouvernement iranien n'a pas mis en place de plan d'intégration des migrants. Comment donner à ces Afghans une place dans la société iranienne ? Comment leur permettre de s'intégrer, de travailler ? Il n'y a toujours eu que du mépris à leur égard et des menaces, à commencer par celle d'être expulsés. Toutes les excuses ont toujours été bonnes pour en faire des boucs émissaires, pointer leurs différences et insister sur ce qui les sépare des Iraniens, susciter la haine ou tout au moins une opposition contre les Afghans qui ont migré en Iran. Résultat, ils sont aujourd'hui la cible à la fois du gouvernement et de la population qui régulièrement les méprise et les maltraite.
C'est ce que nous montre le film, importé par des comédiens non professionnels qui ont participé à l'écriture du scénario. C'était très important pour le projet, pour leur donner d'abord la voix qu'on leur refuse, et puis aussi pour bâtir un récit qui sonne juste. Le résultat est puissant, bien filmé, découpé en trois chapitres qui nous racontent à chaque fois le quotidien, les efforts pour s'en sortir, les épreuves endurées, la haine. L'histoire se déroule sur 30 ans à l'intérieur d'une même famille, avec un parti pris qui, je trouve, la grande force du film, celui de ne pas montrer frontalement le prix à payer pour être là, de laisser l'action se dérouler hors champ pour n'arriver qu'au résultat. Un adolescent brillant, écrasé par la honte après son agression par un policier, une femme veuve employée au noir, obligée d'enterrer son mari à main nue la nuit tombée, un couple endeuillé par la disparition d'un fils, toute une succession d'événements, d'humiliations, de détentions arbitraires, de harcèlement, de travaux forcés clandestins, de tortures physiques ou psychologiques qui viennent dans chacune de ces histoires attester du prix à payer pour trouver sa place.
Et c'est aussi une histoire qui fait écho à la propre condition des réalisateurs, Corinne, puisqu'ils sont en exil aujourd'hui.
Et qui ont quitté l'Iran pour faire ce film spécifiquement, ne pas avoir à soumettre leur scénario au bureau de la censure. Ils se retrouvent aujourd'hui dans des conditions de vie assez proches de leurs personnages, l'un à New York, l'autre à Paris, ce qui donne ici cette dimension aussi très universelle. Un film pour réveiller la communauté internationale qui ne fait pas grand-chose du point de vue d'Ali Reza Ghazemi.
Vous savez, n'importe quel être humain, où qu'il soit, peut ressentir un jour une rupture avec son environnement, chercher à recréer du lien ailleurs parce qu'on a perdu sa maison. Parfois parce qu'on a dû quitter son pays, ou tout simplement pour des raisons identitaires ou existentielles. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, où le chaos semble régner partout, ce besoin de chercher un nouveau sentiment d'appartenance est très répandu. La question de la migration et des migrants ne concerne plus une simple minorité. C'est à l'échelle mondiale qu'on a tous besoin de ressentir une appartenance à une communauté. Nous devons tous y réfléchir. Ce n'est pas juste le problème des autres. Ça peut nous arriver à tous, à n'importe quelle étape de notre vie. Il faut trouver des solutions à l'échelle mondiale.
Un message reçu 5 sur 5, en tout cas au festival du film de Sundance, où le film a remporté le prix de la meilleure réalisation cette année.
Voilà, ça s'appelle « Au pays de nos frères » et c'est au cinéma en ce moment même. Corinne Pellissier, merci beaucoup. À mercredi prochain.